qu'il faut à ce pays, c'est plus qu'un bâtiment, c'est de l'espoir.
Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter.
Les peuples ne devraient pas avoir peur de leur gouvernement. Les gouvernements devraient avoir peur du peuple.
Et si on faisait un pas de côté? Si on faisait un pas de côté, on verrait ce qu'on voit jamais. On verrait ce qu'on voit jamais.
Bonjour à tous, Wakadi reprend du service ce soir après une petite période d'absence. On vient vous parler ce soir de la loi travail. Au moment où les chiffres du chômage ne cessent d'augmenter, au moment où le MEDEF déclare qu'il faut une situation d'urgence économique, est-ce que libérer le travail, c'est la solution pour lutter contre le chômage? Pour en discuter avec nous ce soir, Richard Abouzi est parmi nous. Bonsoir Richard.
Bonsoir.
Donc ancien inspecteur du travail, vous êtes auteur d'un livre qui s'appelle « Comment résister aux lois Macron, El Khomri et Si » avec Gérard Filoche. Et donc vous allez nous expliquer un peu qu'est-ce qu'il y a exactement dans cette loi et pourquoi ce n'est peut-être pas la solution idéale pour régler enfin le problème du chômage. Avec moi ce soir également pour discuter de cette loi et venir questionner notre invité Manu, qui aura fini de jouer avec son portable. Bonsoir Manu. Boris.
Bonsoir.
Et à la technique l'inimitable et jamais égalée, Jean-Jacques, qui ne peut plus vous parler parce qu'il n'a pas de micro.
Bonsoir,
non, il ne dit pas bonsoir, puis il est assez mal élevé, Jean-Jacques.
Il n'a pas été élevé, même.
Bienvenue au Cargo, dans le 19e arrondissement de Paris. C'est le plus grand incubateur d'Europe, un lieu où de jeunes entrepreneurs bénéficient de services pour monter leur boîte. Ici aussi, on suit de près le projet de loi de réforme du Code du travail. Pour ce créateur de start-up, c'est un texte qui va dans le bon sens.
Tout ce qui peut participer à fluidifier et à encourager l'innovation sur ce secteur-là, pour nous, c'est forcément un plus. Et on est très heureux que ce sujet soit au centre des débats aujourd'hui.
Plus de flexibilité, c'est ce que veulent ces jeunes patrons. Ils sortent d'école de commerce et pour eux, les contrats de travail n'ont plus de sens à l'heure du numérique.
Je ne pense pas que le CDI, comme nos parents ou nos grands-parents l'imaginaient, l'emploi à vie, ce soit quelque chose qui soit encore d'actualité. Nos grands-parents avaient un emploi dans leur vie, nos parents ont eu 6 emplois dans leur vie et nous, on aura 6 emplois en même temps.
Pour lancer leurs entreprises, ces jeunes ont besoin d'une main-d'œuvre qualifiée, mais ils n'ont pas d'argent pour embaucher. Du coup, ils veulent que la loi aille plus loin dans la dérégulation du travail.
Je pense par exemple au système du nombre de stagiaires dans les entreprises, pour pouvoir permettre aux startups en démarrage de se lancer avec la possibilité d'avoir plus de stagiaires que la loi l'autorise.
Des stagiaires faciles à trouver quand le chômage touche plus de 24% des jeunes en France.
Là, on l'entend, donc c'est des jeunes qui ont l'air de souffrir, donc ils montent leur start-up, ils viennent de faire de dures études dans des écoles de commerce, et eux, ils le disent, donc le contrat de travail, c'est quelque chose qui tue l'emploi. Donc qu'est-ce que tu peux répondre à ça, toi, Richard? Parce que c'est pas un peu archaïque, cette histoire de contrat de travail?
Pour répondre, je vais déjà reprendre le titre du livre. Ainsi, c'est Compagnie. Et Compagnie, donc, c'est le MEDEF, c'est l'Union européenne, c'est le FMI, c'est la BCE, c'est tout ça. Et donc, les lois, c'est eux qui les font. Et s'ils les font précisément, donc, c'est pour casser les garanties du droit du travail, hein, qui ont été acquises depuis 150 ans, 170 ans. Et donc, il ne faut pas s'étonner que ce qu'ils préconisent donc pour diminuer soi-disant le chômage, c'est de flexibiliser, casser les garanties collectives. Simplement, bon, la simple évidence, hein, un enfant peut le comprendre, quand on a dans la loi les dispositions qui visent à augmenter le temps de travail pour ceux qui en ont de plusieurs manières, hein, la durée maximale quotidienne, la durée hebdomadaire, la durée annuelle, le forfait jour généralisé, bon, le travail à domicile généralisé avec... Alors on en a beaucoup parlé, par exemple, puisque Valls a dit, mais bon, je reviens dessus, le fractionnement du repos quotidien de 11 heures qui est garanti par les conventions internationales et par la loi française, hein, c'est-à-dire qu'on peut travailler 24 moins 11, 13 heures d'affilée quand on est au forfait jour, par exemple. Donc ça ne leur suffisait pas, ils avaient prévu dans la première loi El Khomri de fractionner même ce repos quotidien. Quand on regarde la version Valls, en fait, c'est pas abandonné, c'est repoussé à l'automne par discussion entre les prétendus partenaires sociaux. Donc, en fait, les dispositions sur la durée du travail sont toutes de libéraliser au maximum la liberté de l'employeur, d'augmenter le temps de travail. Il n'y a pas pire mesure pour faire augmenter le chômage, n'importe qui le comprendrait.
Donc améliorer les licenciements, supprimer des emplois, c'est pas ce qui permettrait de lutter contre le chômage.
Pourtant, en Italie, ils se vantent d'avoir créé 250 000 emplois, en Allemagne, en Espagne.
Oui, c'est des petits rigolos.
C'est un argument qui serait risible, mais c'est un comique de répétition. C'est-à-dire que ça fait 30 ans à peu près, que pays après pays, donc les gouvernants et le patronat nous expliquent que dans tel pays, alors on a le choix, on a eu le Japon, on a eu l'Angleterre, on a eu l'Allemagne, on a eu maintenant l'Italie, de temps en temps on a l'Espagne, on a très souvent à nouveau l'Allemagne, et on nous explique qu'en cassant le droit du travail, en licenciant plus facilement, mais finalement le taux de chômage diminuerait. Bon, pour prendre l'exemple de l'Espagne, exemple récent de l'Espagne, bon, on entend régulièrement « En Espagne, ça marche !» Sauf qu'en Espagne, il y a 700 000 travailleurs qui sont partis. Sauf qu'en Espagne, les jeunes, il y a 50% des jeunes qui sont au chômage. Et alors pour le reste, donc il y a deux choses qui se passent. Donc ce que j'ai dit sur la durée du travail, la file d'attente, elle ne va pas au chômage, elle ne va pas diminuer, elle va augmenter. Mais ce qui va changer avec la facilitation des licenciements, c'est qu'on aura un turnover de plus en plus important, des contrats de plus en plus courts. Alors évidemment, dans les chiffres statistiques du chômage, plus de contrats courts, on a l'impression, hein, des contrats à 0 heure en Angleterre, des contrats à 4 euros en Allemagne, on a l'impression que le chômage diminue. Mais comme ça se fait partout depuis 30 ans, quand le chômage diminue dans ces conditions-là, c'est par une explosion des contrats qui ne permettent pas de vivre.
Mais est-ce qu'il ne vaut pas mieux qu'il y ait finalement beaucoup de gens qui puissent travailler, même avec des petits contrats précaires, qu'énormément de gens qui n'ont pas de travail et qui sont au chômage ?
Alors moi, je préfère la misère partagée, hein, et au recyclage des chômeurs, au turnover des chômeurs. Moi, je préfère que les richesses soient partagées, et en répartissant et le temps de travail et les richesses, on aboutit à ce qu'il y ait des chômeurs nulle part.
Au tout début, vous avez dit c'est les instances européennes, c'est tout, grosso modo comme s'il y avait un complot, comme si tout était prévu, préfabriqué, etc. Est-ce qu'on ne peut pas penser qu'à un moment donné, les gouvernants se disent ben, on va précariser un peu l'emploi, mais c'est ce qui va permettre de relancer la machine et peut-être ensuite de resécuriser l'emploi, de redynamiser l'économie, etc. Il y a quand même un certain nombre d'économistes, etc., qui, dont le prix Nobel, qui...
Là aussi, c'est un comique de répétition qui est bicentenaire. Hein. C'est bicentenaire. Bon, c'est le coup de dire, mais d'accord, faites des sacrifices. Bon, on va faire repartir la machine et un jour plus tard, vous aurez non, parce que ceux qui disent ça, c'est ceux qui décident et c'est eux qui planifient justement que pour augmenter leurs profits, bon, on va diminuer la rémunération des autres. Et donc au bout du bout, ben, comme les profits, ils n'en ont jamais assez. Soit parce que c'est la crise, leur crise, voilà, et qu'il faut continuer, soit les profits sont consistants, mais la logique du système, c'est qu'il faut encore les augmenter. D'ailleurs, on le voit dans la loi travail, c'est que les accords qui auparavant donc étaient avec Sarkozy et avec la loi Sapin, des accords de maintien dans l'emploi, on baisse les salaires, on augmente le temps de travail pour maintenir l'emploi. Avec la loi El Khomri, c'est devenu, si un employeur veut améliorer l'emploi, améliorer sa compétitivité, se lancer sur des marchés, même s'il n'a pas de difficultés économiques, il faut qu'il puisse pouvoir baisser le salaire et augmenter le temps de travail de ses salariés.
Alors là, on a...
C'est sans fin.
Ouais, là, on a, on a un petit son, donc, parce que donc, à Wakani, on fait des reportages. Et on a laissé traîner nos micros dans une entreprise qui est à l'avant-garde du droit du travail et de la loi à Macron. Et on va voir un peu comment ça se passe, les licenciements avec la loi El Khomri. Nouvelle version.
Entrez, François, restez pas dans le noir, là. Asseyez-vous. Comment ça va, François?
Ça va très bien, vous, Mamou, c'est Serbi.
Mais tout va bien, je vous remercie.
Ah, c'est bien, ouais, c'est bien, ça. C'est bien.
Alors, écoutez, François, si j'ai voulu vous voir aujourd'hui, c'est parce que ça fait maintenant 20 ans que vous travaillez chez nous, dans l'entreprise.
Ouais, 20 ans, ouais, 20 ans, ouais, ouais. 20 ans, ouais, ouais.
C'est un beau parcours, hein?
Ouais, 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 c'est vrai, ouais. Ça fait plaisir, ouais, c'est vrai.
Eh bien, écoutez, François, moi, je suis là pour vous annoncer que, pour vous, l'aventure s'arrête là. Voilà, en quelques mots dire, on va se passer de vos services, vous comprenez?
Ah oui, d'accord. Allez, ah, d'accord, ouais. Non, parce qu'en fait, moi, je pensais que la société, elle avait fait beaucoup de bénéfices.
Ouais.
C'est pour ça, ouais.
Alors, écoutez, François, chacun reste dans ses compétences, hein? Ouais. Vous, c'est le ménage, moi, c'est l'économie, d'accord? Donc, tout ça ne vous regarde plus, puisque vous n'êtes plus des nôtres désormais.
D'accord. Et pour combien de temps, en fait?
Ah ben, c'est définitif, c'est valable à partir de maintenant jusqu'au décès, comme on dit.
Ah, oh, d'accord, ouais. D'accord. 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 Donc, moi, pour le moment, j'avais pas prévu de décéder tout de suite. Donc, ça veut dire, en fait, si j'ai bien compris, ça veut dire qu'il me reste 3 mois pour me retourner, quoi, j'ai ma préavis, quoi, c'est ça, d'accord, ok, ouais.
Vous n'avez pas de préavis, vous, François, quand même?
Ben, c'est mon droit, quand même, d'avoir des préavis, ça, quand même, aussi servi, c'est les lois, ben ouais.
Non, mais enfin, François, pour avoir des droits, il aurait fallu signer un contrat, hein.
Ah oui, d'accord, ouais. C'est vrai, ce n'est pas des contrats. D'accord, ouais. D'accord. Donc, en fait, si j'ai bien compris, ça veut dire que je suis viré, en fait. Hein? Ça veut dire que je ne travaille plus dans la boîte, je travaille depuis 20 ans. Donc, j'ai fait ma pointe de départ ce soir.
Mais c'est ça, vous avez bien compris.
D'accord.
Par contre, pour le pot de départ, vous le faites chez vous. Hein? Parce que nous, on n'écoute pas Francky Vincent, tout ça, comme musique. Hein? Voilà. Et effectivement, vous ne revenez plus jamais.
C'est dommage parce que vraiment, Francky Vincent, ça reste de la musique de qualité. Je voulais revenir un peu sur ce qu'on disait avant ce petit sketch. Vous parliez des grandes entreprises, des groupes qui font du profit. On pense tout de suite à Total. Mais ce qu'on a beaucoup entendu aussi au niveau de cette loi, c'est la question des petites entreprises, des petites et moyennes, des petits patrons qui nous disent « Moi, je n'ai pas de visibilité sur mon activité, c'est déjà compliqué, c'est eux qui créent l'emploi. » Et ne pouvoir licencier plus facilement, me sentir pas condamné au prud'homme si jamais ça se passait mal à des sommes folles, avoir la possibilité de pouvoir adapter un peu le temps de travail par rapport à l'activité, moi, ça me permettrait peut-être de créer de l'emploi. Et là, on ne s'adresse pas à des multinationales, on s'adresse à des gens qui ont entre 5, 10, 15 salariés, qui sont ceux qui créent le plus d'emplois et qui, eux, sont aussi dans une réalité économique qui est compliquée.
Oui, alors les grandes entreprises et les organisations patronales donc de ces grandes entreprises mettent régulièrement, et ça c'est pas nouveau non plus, en avant les petits patrons, les PME, dans l'agriculture aussi, hein, la FNSE avec les paysans, les petits paysans, pour dire, vous voyez, eux, ils sont en difficulté, il faut qu'ils puissent adapter, varier, etc. Moi, ça fait une quarantaine d'années que je fais du droit du travail, hein, de façon professionnelle ou militante tous les deux. Et je vois depuis 4 ans, toutes les semaines, des petites entreprises. Je suis conseiller du salarié, donc c'est essentiellement des petites et moyennes entreprises que je vois en accompagnant les salariés qui sont licenciés. De mémoire, sur 4 ans, j'en ai pas vu une, pas une, qui m'ait dit que leur souci, c'était de pouvoir flexibiliser plus, etc. Par contre, toutes celles qui disaient avoir des difficultés, c'était toutes, sans exception, un problème de manque d'activité, de manque de commandes, lié à deux choses. Lié au pouvoir d'achat, bon, qui en baisse un peu partout, hein, dans la société, et puis lié aussi à l'emprise des grands groupes.
Alors, c'est rigolo ce que vous nous dites, parce que, en fait, si on comprend bien, ces grands groupes-là qui défendent une libéralisation du marché du travail en expliquant que, en mettant en avant qu'il faut sauver les petites et moyennes entreprises qui souffrent de ça, c'est finalement ceux-là même qui sont responsables de la crise de ces entreprises-là.
Oui, très exactement. Et d'ailleurs, quand on regarde la représentativité patronale, donc, qui est discutée depuis longtemps, et sur lequel finalement, l'année dernière, finalement, les organisations patronales, donc le MEDEF, la CGPME et l'UPA avaient fini par se mettre d'accord, la loi El Khomri a modifié très discrètement, puisqu'on n'en a pas beaucoup parlé, donc la représentativité patronale sur laquelle il y a eu un accord, en modifiant les règles en faveur du MEDEF, qui n'est pas du tout représentatif du patronat, en nombre d'entreprises notamment. Et donc l'UPA s'est retrouvée squeezée dans cette affaire-là en disant « Bon, nous, on a rien demandé, la loi El Khomri, on n'avait pas demandé ce qu'il y a. » Et on se retrouve avec un MEDEF qui nous impose une loi qui introduit des dispositions dont on n'a pas besoin. Ce que je disais avant, nous, c'est les commandes dont on a besoin.
Donc c'est vraiment une loi MEDEF. Merci, on devait, donc la loi de travail, moi je suis assez convaincu finalement, au début j'étais pas trop convaincu, mais ça n'a pas l'air d'être trop bien. Et donc cette loi de travail, si on devait la décortiquer, donc imagine, on la met au salar d'Ouyouni, on attend que les fourmis passent, que tout la chair soit partie, quel est l'os, quel est le cœur de cette loi travail ?
Le cœur, si on pouvait le dire en une phrase, c'est que les relations sociales qui sont nouées à l'intérieur de l'entreprise actuellement, donc qui sont des relations qui ont été forgées par l'évolution, la création d'un droit du travail à partir du milieu du 19e siècle, avec des garanties progressives et des protections progressives des salariés par rapport à la toute-puissance de l'employeur à l'intérieur de l'entreprise.
Est-ce que tu veux dire que c'est pas un contrat d'égal à égal entre...
Voilà, donc c'était soi-disant un contrat d'égal à égal tant qu'il n'existait pas de droit du travail, c'est-à-dire au début du 19e. Donc le droit civil qui s'est créé à ce moment-là, c'était un droit qui liait deux parties égales, qui devait pouvoir passer, donc un contrat de gré à gré entre deux parties égales. Et donc précisément comme l'employeur n'est pas égal au salarié dans l'entreprise, la subordination du salarié, elle est totale et elle est juridique, hein, depuis qu'il existe un droit du travail, justement, depuis le milieu du 19e. Et la loi El Khomri, finalement, est progressivement, à travers le renversement de la hiérarchie des normes que je vais expliquer après, bon, nous renvoie progressivement à cet état de prétendue égalité, qui fait que l'employeur, après le passage de cette loi, si elle est mise en application, aura absolument toute latitude à l'intérieur de l'entreprise pour faire exactement ce qu'il veut, que ce soit de la durée du travail, de la répartition des horaires, des salaires distribués et du licenciement.
Inversion de la hiérarchie des normes. Autant la relativité générale, c'est simple, mais autant oui. L'inversion de la hiérarchie des normes, qu'est-ce que ça veut dire ?
En fait, c'est très simple aussi. Mais bon, il faut partir de la Révolution française et du principe d'égalité qui a été posé par la Révolution française. Et cette égalité à l'intérieur de l'entreprise, donc, elle s'est traduite, quand les travailleurs ont fait valoir leurs droits, par une égalité par la loi. Et cette loi, donc, est commune dans le Code du travail, normalement, à tous les salariés, quelle que soit leur ancienneté, quelle que soit l'entreprise. Et donc, ce qui a été construit progressivement, c'est un principe de faveur qui fait que, dans un secteur d'activité donné, s'il y a un accord collectif qui peut être pris entre des organisations patronales et des organisations syndicales de salariés, donc les dispositions sur ce secteur d'activité qui peuvent être prises par cet accord ne peuvent être que plus favorables aux salariés que la loi. De la même façon, à l'étage supérieur, une entreprise, donc dans un secteur d'activité donné, peut prévoir des dispositions différentes de celles de l'accord du secteur d'activité, de la branche, mais toujours plus favorables aux salariés que le niveau inférieur. Et le dernier étage, le contrat de travail individuel, peut prévoir des dispositions différentes de l'accord d'entreprise, mais encore une fois, plus favorables pour le salarié. C'est ce qui existe depuis le milieu du 19e siècle. Progressivement. Et c'est un exact renversement de cette hiérarchie des normes et de ce principe de faveur que met en place la loi El Khomri.
Bon, mais alors finalement, si je comprends bien, donc le contrat de travail, c'est celui qui va prévaloir sur la loi. Mais l'échelle du contrat de travail, celui de l'entreprise, est-ce que ce n'est pas à cette échelle-là qu'on peut faire mieux, enfin qu'on peut réagir mieux aux besoins de l'entreprise et puis essayer de faire vivre un peu la démocratie de l'entreprise? Je crois que c'est ce qu'avaient essayé les patrons de Smart il y a quelques temps avec un référendum sur une négociation salariale concernant du passage du 35 à 39 heures.
Après une journée de vote, la direction vient annoncer les résultats du scrutin. Les salariés de l'usine Smart d'Ambar en Moselle acceptent l'augmentation du temps de travail.
La direction de Smart France se félicite de ces résultats. On se retrouvera donc la semaine prochaine avec les organisations syndicales pour définir les prochaines étapes de notre négociation annuelle obligatoire.
Les salariés ont donc validé le passage provisoire de 35 à 39 heures de travail hebdomadaire, payé 37 heures. En contrepartie, la direction assure le maintien de l'emploi pendant 5 ans et une cinquantaine d'embauches.
On ne va certainement pas donner une réponse lundi matin à la direction. Et on va d'abord se réunir, on va analyser les résultats et voir ce que l'on veut faire et ce que l'on peut faire.
Ce scrutin n'est que consultatif et la décision finale se fera lors d'une table ronde entre syndicats et direction dans les jours prochains. Une initiative qui va dans le sens de la réforme du Code du travail annoncée par Manuel Valls et la généralisation des accords au sein des entreprises.
Si tu te tais quand on te demande rien, qu'est-ce que tu diras quand on demandera de te taire ?
Si on a quelque chose à dire,
Et donc là, finalement, la loi travail va permettre de généraliser ces consultations au plus près des salariés. Est-ce que c'est pas super démocratique, ça, des référendums, là, comme ça ?
Le reportage, là, illustre, c'est une double leçon de choses. La première, bon, c'est que le renversement de la hiérarchie des normes dont je parlais dit bien que l'accord d'entreprise va pouvoir passer par-dessus la loi. Et là, quand on dit qu'un salarié va pouvoir travailler 39 heures, payé 37, on dit très exactement que ce salarié, s'il est payé son salaire au SMIC, le SMIC ne sera plus appliqué par l'accord d'entreprise. Il sera payé en dessous du SMIC. C'est la première leçon de choses. La deuxième leçon de choses, c'est ce que les salariés expérimentent partout, dans toutes les entreprises, depuis une trentaine d'années, depuis que le rapport de force est défavorable avec le chômage de masse. C'est que quand il y a une négociation dans l'entreprise, le patron, il ne signe que ce qu'il veut bien signer. Et s'il y a du chômage de masse, le patron ne signe que les accords qui lui sont favorables. Et par contre,
c'est logique.
Et par contre, il est en position, comme chez Smart, de façon directe, chez Smart, mais de façon indirecte le plus souvent dans les entreprises, disant, voilà, chez Smart, bon, voilà, on a des difficultés. Si vous ne voulez pas accepter de travailler avec en dessous du SMIC, moi, je délocalise en Pologne. Sous une forme ou sous une autre, dans toutes les entreprises, quand il y a des accords collectifs dans une période où le rapport de force est défavorable, forcément, les salariés, ils sont obligés d'accepter. Et on peut l'illustrer, le reportage n'a pas été au bout de l'histoire de Smart, mais le bout illustre bien ce que je viens de dire. C'est-à-dire qu'une fois que le référendum qu'il a été simplement consultatif avec la loi El-Khomri, avec la loi travail, le référendum sera décisionnel. Mais avec ce référendum donc, qui était consultatif chez Smart, qu'est-ce qui s'est passé ? L'employeur, il est allé voir les salariés un par un, et 90% des ouvriers ont accepté de modifier leur contrat de travail, 39 heures payées 37. Alors que pour un référendum qui n'était que consultatif et où ils avaient moins de crainte d'exprimer leur opinion, les ouvriers avaient voté à 61% contre cet accord.
C'est souvent que les référendums, quand on vote un truc qui ne va pas dans le sens qu'on nous attendait, après on repasse. Enfin, en tout cas, il me semble qu'il y a des exemples dans l'histoire. Mais bon, d'accord, le problème de la hiérarchie des normes, c'est une chose. Mais est-ce qu'au final, si on gratte bien, est-ce que le problème de l'entreprise, finalement, bah, c'est pas le salarié et le salariat ?
D'entrée de la Maison Morel, qu'est-ce qu'on y voit ? Une boîte à idées.
Alors, quelle bonne idée,
hein, Tous les vendredis soirs, c'est devenu un rituel. Monsieur Morel ouvre la boîte et puis sort toutes les idées. Alors, il y a beaucoup de récriminations. Hein, oui. Dès qu'ils ne sont jamais contents. On ne veut plus de caméras dans les cabinets. On voudrait avoir plus de 20 minutes pour pouvoir manger le midi.
N'importe quoi.
Il y avait l'autre fois une bonne idée, c'est trouvé. Trop d'emplois tue l'emploi. Vive les bénévoles. J'ai dit, l'idée est formidable. J'ai dit, j'en ai parlé à monsieur Duquesne. Et voilà. Il m'a dit, oui, c'est vrai, la plaie de l'entreprise, c'est le salarié.
Hein? Absolument.
Alors, le salarié, il arrive, il est jamais content.
Bah, hein? Non, ça va jamais.
Ça va jamais. Il pense qu'à partir le soir, il pense à son chèque
à la fin du mois.
Vendredi soir, il pense à moi. Jamais content.
Jamais.
Bon, demande des augmentations. Le bénévole ne demande pas tout ça.
Mais non,
puisqu'il n'a rien.
Voilà, exactement. Le bénévole vient avec son cœur.
Avec son enthousiasme.
Mais voilà. Et c'est ça qui compte. Et c'est comme ça qu'il se réalise. Voilà. Dans le travail, dans l'entreprise.
Atmen. C'est un garçon qui travaillait déjà, qui était salarié.
Oui, mais pas beaucoup quand même.
Pas beaucoup, mais quand même. Il faut quand même.
Ils sont jamais contents.
Mais on paye
son salarié, ils sont jamais contents.
Il y a ton petit salaire, mais il y a les charges, il y a les vacances, il y a les retraites.
Il y a tout.
Bon, ben maintenant
il vient avec son cœur, il est content.
Et ben voilà.
Oui, mais j'ai pas du choix.
De construire l'entreprise
avec des valeurs
en se construisant soi-même.
Et oui, venir au travail avec son cœur, ça c'est quand même pas mal. Le bénévolat, ça peut avoir son côté positif. D'ailleurs, on voit dans les compagnies de taxi, bon, les taxis souvent ils sont tristes, tout ça machin, tandis qu'avec Uber, ils arrivent avec leur cœur. Les salariés de Uber, enfin c'est pas des salariés, les patrons d'Uber, les milliers de patrons qu'il y a chez Uber. Donc on a l'impression que là, avec et Macron, et la loi travail, tout ça, on s'achemine vers une nouvelle forme d'un nouveau monde du travail quand même. Est-ce que c'est un peu ça qui se dessine, l'auto-entrepreneur, en fait, c'est le monde des tous winners, quoi, non ?
Oui, le conte de fées, je dirais plutôt la pédagogie de la vaseline. Bon, on l'a effectivement, mais oui, on l'a, là aussi c'est pas nouveau. Hein, les auto-entrepreneurs, allez-y, soyez créatifs, créez votre entreprise, etc. On l'a. Alors, très précisément, quand on regarde la situation réelle, donc si on parle des taxis Uber, bon, c'est le plus souvent des jeunes de banlieue qui n'avaient pas de boulot. Voilà, entre dealers, djihadistes ou domestiques, bon, finalement, s'ils vont chez Uber, ils choisissent domestique. Ou esclaves, il faut voir, ça dépend. Mais ça ne veut pas dire qu'ils n'en sont pas fiers d'avoir ce travail, d'avoir une belle voiture, d'avoir un costume, d'avoir enfin un vrai travail. C'est vrai. Mais la réalité de ce travail, c'est quoi ? La réalité de ce travail, c'est qu'ils sont embauchés, crac, comme ça, en passant une convention avec Uber en disant « je vais travailler pour vous ». Et après, contrairement aux salariés, sa durée de travail, elle n'est pas fixée. Ces heures supplémentaires ne sont pas fixées. Un travailleur de chez Uber, il travaille 50, 60, 70, 100, jusqu'à 120 heures par semaine. Et il est obligé de travailler ce nombre d'heures-là parce que le salaire qui va avec, il ne le maîtrise pas du tout. Parce que quand il signe avec Uber, c'est Uber tous les jours, à chaque course, qui fixe le prix de la course et qui varie. Et donc, quand il fait ses comptes, il est obligé de travailler ce nombre d'heures-là pour arriver à s'en sortir. Et qu'est-ce qu'il fait, Uber ? C'est lui qui prend le prix de la course avec la carte bleue. Il prend sa commission et il reverse aux travailleurs d'Uber. Et qui c'est qui, finalement, fait le contre-maître dans cette entreprise-là ? C'est le client. Le client, qu'est-ce qu'il fait ? Il note. Il note s'il a été bien habillé, s'il a bien parlé, s'il lui a bien donné la bouteille d'eau, s'il lui a bien ouvert la porte, s'il n'y a pas eu de problème, etc. Et comment se fait le licenciement de ces salariés, de ces travailleurs d'Uber ? Il se fait plus vite encore qu'aux États-Unis, il se fait à la vitesse de la lumière. Quand Uber décide que finalement le contremaître lui a dit que ce n'était pas bien, il déconnecte. Voilà, et j'irai.
Donc Uber, en fait, c'est un proxénète.
Uber est un bon proxénète, oui, c'est vrai, avec des tarifs variables, hein, très souples, contrairement au proxénète.
Parce qu'il met en contact des gens, en fait. C'est un peu d'aider la saumure.
Alors, c'est ça aussi qui est intéressant dans l'histoire, c'est qu'on nous vend, cette chose-là. Ils y tiennent beaucoup, hein. Ils y tiennent beaucoup, pas seulement parce que Macron, depuis 2 ans, a décidé qu'on légaliserait Uber. C'était prévu dans le premier avant-projet de loi El Khomri, c'était écrit noir sur blanc, les travailleurs d'Uber ne sont pas des salariés. Certes, ils sont dépendants économiquement, mais c'est leur choix. Ils choisissent de venir travailler comme esclaves.
C'est une belle invention parce que du coup, on n'a plus de protection sociale. Il y a plein de choses qui sautent. C'est quand même une belle invention pour le patronat, ça.
Il y a tout. Bon, si c'est aussi important, c'est pas seulement parce que ça permet de calmer un peu le jeu sur le chômage de masse dans les quartiers, mais c'est aussi essentiellement pour mettre en concurrence, en compétition sauvage, pour le coup, tous les travailleurs, donc ceux qui ont encore quelques garanties salariales, et ceux qui viennent, alors soit travailler au noir, ça existe hein, chez Uber, soit qui vont se payer eux-mêmes leur protection sociale, enfin un bout de protection sociale.
Du coup, là, depuis le début de l'émission, c'est vrai qu'on nous dépeint un monde futur avec la loi El Khomri relativement néfaste hein, pour les salariés, enfin pour les gens, pour la vie, pour le travail, etc. Si vous acceptez pas nos conditions, on va en Pologne, puis on dit aux Polonais, on va au Bangladesh, et puis du Bangladesh, je sais pas trop où on peut aller. Et en même temps, pour contrecarrer ça, qu'est-ce qui est proposable, en fait ? Parce que je me dis, en même temps... est-ce qu'on a finalement le choix ?
Bon, la première réponse, bon, c'est que la logique qui est derrière, bon, qui est expérimentée quand même depuis des dizaines d'années, c'est en mettant en généralisant la compétition à l'échelle de la planète, puisque maintenant c'est à l'échelle de la planète qu'on met les travailleurs en compétition. Bon, on est dans une course, mais sans ligne d'arrivée. C'est-à-dire que c'est sans fin. On pourra toujours trouver moins cher. Je peux donner un exemple. Hein, quand on a voulu désamianter le Clémenceau, qu'on l'a envoyé en Inde.
Pas le lycée, hein, le porte-avions.
Pas le lycée, le porte-avions. On avait trouvé des salariés indiens qui travaillaient pour 2 dollars de l'heure. On disait, c'est bien, hein, ils vont travailler pour 2 dollars de l'heure, pieds nus et avec leurs mains nues. Eh bien, on a trouvé moins cher. En arrivant en Inde, ils avaient trouvé des Indiens qui venaient de 500 km plus au nord et qui, eux, étaient partants pour travailler à 1 euro de l'heure.
Mais ça, je pense que tout le monde en est... Enfin, aujourd'hui, tout le monde en est conscient. Hein. Voilà. Il n'empêche que c'est justement parce que tout le monde en est conscient que chacun est prêt, finalement, à accepter une certaine précarité de la vie ou du travail par peur du chômage. Et donc, quelle contre-proposition existe réellement? Quelque chose de concret
La contre-proposition, elle est ultra simple, d'abord parce qu'elle est logique et qu'il n'y en a qu'une. Contre le chômage, il faut évidemment répartir le travail, et ça c'est très possible. Et pour pouvoir répartir le travail, il faut répartir les richesses. C'est aussi simple que ça. Du point de vue de la perspective. Du point de vue de la perspective. Bah, c'est-à-dire que si on regarde la richesse produite en France, donc en prenant, moi j'ai fait un calcul sur les chiffres de l'INSEE de 2010, sur le PIB de 2010, en enlevant les investissements et en répartissant la richesse donc sur les plus de 18 ans, voilà, on arrive à un revenu de 2400 euros par personne de plus de 18 ans, qu'ils soient étudiants, chômeurs, malades ou retraités. Voilà, la richesse réelle de la France, c'est ça. Donc, si on répartit ces richesses-là, on peut évidemment répartir le travail, dans la mesure où ce revenu est garanti, répartir le travail en faisant 32, 30 heures par semaine, et tout le monde aura du travail, et ce travail pourra devenir de l'activité, du coup. Parce que si on passe à un système social où le revenu est garanti, évidemment, les gens vont travailler dans d'autres conditions. Ça suppose évidemment que ceux qui actuellement donnent le travail soient mis en dehors de la propriété des moyens de production.
Parce que c'est intéressant, mais pourquoi ça ne se fait pas ? Pourquoi, s'il est possible de répartir un revenu de 2400 euros par personne avec des heures de travail beaucoup plus gérables, avec une vie personnelle, pourquoi ça se fait pas ? C'est un manque de volonté politique ? C'est un manque de volonté économique ? C'est qu'on considère que c'est pas réalisable dans les faits ?
Parce que ceux qui prospèrent sur le travail des autres, ils se laisseront jamais arracher leur pouvoir. Et donc ça suppose une révolution politique. Mais après, bon, sinon, du point de vue presque technique, j'allais dire, la chose, elle est déjà à moitié entamée hein, avec la sécurité sociale en 1945. La sécurité sociale, c'est quoi ? Ce sont des cotisations sociales, c'est en fait du salaire, voilà, qui est distribué à ceux qui ne travaillent pas, qui sont au chômage, qui sont malades ou qui sont retraités. Bon, il suffit de poursuivre cette logique en distribuant donc l'ensemble de la richesse sous forme de ces cotisations sociales, voilà, pour les gens qui travaillent aussi. Et en poursuivant cette logique au bout, ben les choses sont faisables. Mais ceci étant, ben pour pouvoir distribuer cette richesse, il faut bien que ceux qui se la sont accaparés, ils la lâchent. Et expérience faite dans tous les pays du monde, ils ne l'ont jamais lâchée sans qu'il y ait quelques secousses.
C'est vrai qu'ils ne sont pas très souples de ce côté-là. Ouais. Et donc, du coup, on passe d'un autre paradigme, du paradigme de Macron et d'El Khomri, c'est il faut pouvoir licencier pour créer de l'emploi. Là, il semblerait que la solution pour l'emploi, ça serait la sieste, en fait, finalement.
Travailler plus, gagner plus, j'aurai moins de temps. Le temps, c'est de l'argent, j'aurai moins d'argent. J'aime pas travailler debout. J'aime pas travailler assis. J'aime pas travailler à genoux. J'aime pas ouais, travailler du tout. Moi, ce que j'aime, c'est glander. Quand je glande, faut pas m'emmerder. Et pour être sûr de me lever tard, tous les soirs, je me fume un pétard. J'aime pas travailler, patron. Tu crois que je te prends pour un con?
Ça boule sud, hein?
Tu aimerais bien me virer si je t'avais laissé m'embaucher. J'aime pas travailler debout. J'aime pas travailler assis. J'aime pas travailler à genoux. J'aime pas ouais, travailler du tout. Même si tu me trouves un emploi, sache que je ne bosserai pas pour toi. Je préfère rester au chômage à me dorer le cul sur une plage. Et si c'est pas très lucratif, moi j'essaye de rester positif. Si je dois redoubler l'effort, alors directement je m'endors. J'aime pas travailler debout. J'aime pas travailler assis. J'aime pas travailler à genoux. J'aime pas ouais, travailler du tout. Et si un jour, un beau matin, le ramon allait au turbin, je prendrais mes jambes à mon cou et je partirais pour un Pérou. Dans la cordillère des Andes, je créerai la République de la glande. Travailler sera interdit, maximum syndical garanti. Ce sera un pays sans banque, ce sera un pays sans banque. Et tant qu'ils sourront à moi joint, je n'aurai plus qu'à le. Je ne travaillerai jamais debout. Pensez pas me faire bosser assis. Encore moins me faire taffer à genoux. Je ne travaillerai plus du tout. Finalement, je ne travaille pas, papa, pas. Je ne cherche même pas d'emploi. Et je reste là à vivoter. Au soleil sans me préoccuper.
Bonjour, vous êtes toujours sur Radio Clapas à écouter l'émission de Wakadi sur la loi travail. Alors, on a compris que finalement, cette loi travail allait pas être la solution pour sauver notre système économique et permettre aux patrons de vivre en toute sérénité. Donc, la question aujourd'hui, si d'autres choix sont possibles, c'est pourquoi se mobiliser, comment se mobiliser et quelles sont les raisons de se mobiliser, notamment chez les jeunes et les fonctionnaires.
On va commencer par les jeunes.
Ben oui, c'est les plus jeunes qu'on commence.
C'est l'avenir. Et il faut doublement commencer par les jeunes parce que bon, les vieux visiblement attendent les jeunes attendent un peu les vieux aussi. Mais quand on regarde l'histoire enfin récente des mobilisations de jeunes, hein, que ce soit la loi de Vaquet en 1986 sur la sélection, le CIP en 1994 hein, sur le SMIC jeune, le contrat spécial pour les jeunes qui ressemble à ce qui s'est passé en Italie récemment, donc le CPE en 2006, on s'aperçoit que les jeunes, ils sont là où on ne les attend pas. ils sont là où les attend pas, c'est-à-dire qu'on n'imagine pas a priori que les jeunes, le CPE, les concernaient à ce point-là, que le CIP, alors qu'ils étaient encore dans les études, les concernaient à ce point-là. Et rebelote cette fois-ci aussi. S'il y a eu autant de clics sur la pétition contre la loi travail, hein, 1 250 000 clics en deux semaines. Mmh. Voilà. Bon, c'était beaucoup des jeunes, je pense. Hein. D'ailleurs, le site qu'ils ont fait le montre très bien. Et moi, ce que j'en retire, c'est que les jeunes, qui viennent ou qui viennent pas dans la rue, pour l'essentiel, ils ont compris. Ils n'ont pas compris les détails de la loi El Khomri, mais cette loi, bon, c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et ils ne savent pas bien ce qu'il y a dans cette goutte d'eau, mais par contre, ils savent très bien ce qu'il y a dans le vase. Et quand on leur dit que finalement, l'avenir pour eux, c'est pire, que ça va être pire que ce qu'ils connaissent déjà, je pense que dans la société française aujourd'hui, là, c'est un point de basculement, c'est-à-dire que ces jeunes, ils ont connu que ça, et leurs parents aussi. Donc on peut leur raconter ce qu'on veut, que la mobilité, la flexibilité, etc. Bon, eux, ils savent les conditions réelles où ils vont galérer pendant des années, passer de service civique en contrat aidé, en chômage, en stage, bon, pour arriver peut-être un jour à avoir un CDI dont ils seront rapidement virés. Donc pour des jeunes qui font, notamment ceux qui font des études, c'est ceux qui sont le plus motivés directement, parce qu'ils savent que malgré tout le temps qu'ils passent aux études en compétition très forte, hein, pour les études, cet avenir-là qu'on leur promet, c'est l'absence d'avenir total. L'impossibilité de prévoir un avenir. Et donc, les jeunes, ils sont parfaitement conscients de ça. Et s'ils viennent massivement, ça sera pour ça. Il n'y aura pas tous les jeunes. Il n'y aura pas les jeunes de banlieue.
Il y a une mesure, selon vous, qui impacte spécifiquement les jeunes ?
Non, c'est ce que je viens de dire, à mon avis, c'est... Je ne pense pas qu'il y ait une mesure particulière. Alors peut-être... Et ils l'ont retirée d'ailleurs parce qu'elle était symbolique.
C'est les apprentis.
Et elle était, c'est les apprentis. Il n'y a pas beaucoup d'apprentis et ce n'est pas sur l'apprentissage en lui-même qu'ils ont tiqué. Mais c'est parce que cette mesure-là était très symbolique de ce que veut faire la loi El Khomri, c'est-à-dire le retour à une situation qui est celle du début du 19e siècle où le patron a tous les droits.
Ouais, mais même...
Y compris les enfants vont travailler sans limite.
Ouais, mais en même temps, quand tu vois les Game Boy faits par les enfants chinois et les colliers de nouilles faits par les enfants européens, tu te dis qu'il y a du potentiel. Oui. Donc du coup, c'est pour ça aussi. Mais pour revenir sur les jeunes, est-ce que aussi le fait qu'ils se mobilisent, c'est pas aussi parce qu'ils travaillent pour faire leurs études justement? Et donc ils connaissent déjà la précarité.
Alors il y a à peu près la moitié des étudiants qui travaillent peu ou prou pour faire les études. Et j'ai lu récemment que 10 à 20% des lycéens travailler aussi. Alors pas forcément en continu toute la semaine, hein, mais pendant les vacances par exemple, ou le week-end, ou alors à la sortie des cours pour garder des enfants par exemple, entre 5h et 8h du soir par exemple. Ce qui fait qu'ils sont obligés de se lever le matin très tôt pour récupérer le travail qu'ils n'ont pas pu faire le soir. Donc c'est vrai aussi que les jeunes, de plus en plus, et c'est pas qu'en France, connaissent la réalité du travail. Donc ceux qui leur racontent des mirages sur les avancées que réaliserait cette loi, ça ne marche pas. Sur les jeunes, ça ne marche pas.
Et pourtant, la loi, elle prévoit notamment une mesure spécifique sur les jeunes, c'est la garantie jeunes. C'est une forme de protection qui serait étendue à tous les jeunes les plus précaires, les moins qualifiés.
Oui, j'aurais eu envie de presque pas en parler. Mais bon, la garantie jeune, bon, c'est. D'abord, c'était prévu avant. Ça ne concernera qu'une minorité de jeunes. Et puis, il faut voir ce que c'est. Il faut voir ce que c'est. C'est la garderie sociale. Hein. C'est la garderie sociale, la garantie jeune. C'est les miettes qu'on donne à des jeunes pour leur faire croire qu'un jour, ils auront un travail qu'ils n'auront pas, pour qu'ils restent calmes en attendant. Parce que quand on regarde ce qu'il y a derrière la garantie jeune, c'est, voilà, on va leur apprendre à faire un CV, on va leur apprendre à faire une lettre de motivation, ils iront travailler un petit peu en contrat aidé, tout ce qu'on connaît déjà, et qui est là pour faire patienter les jeunes parce que de toute façon, à un moment donné, ils seront dans la file d'attente. Alors on peut leur espérer les faire progresser dans la file, c'est tout.
Moi, je vois bien, là, j'ai bien compris que pour les salariés, ça allait être extrêmement compliqué si ce projet de loi devenait une loi, du coup. Que ça allait être compliqué pour les jeunes, a priori. Mais par contre, Séverine posait la question des fonctionnaires, et là, j'ai plus de mal à voir en quoi ils sont concernés.
Ils sont concernés à 200%.
Enfin, au-delà d'être parents de travailleurs,
de futurs jeunes,
grands-parents, ou etc.
Mais quand on interroge des parents qui sont dans le public ou dans le privé, tous les parents, tous, sans exception, ont la même réflexion. Les parents et les grands-parents ont tous la même réflexion aujourd'hui, c'est nos enfants, nos petits-enfants, ils vont vivre moins bien que nous. Moins bien que nous du point de vue de la durée du travail, du salaire, mais pas seulement. Mais aussi des relations de travail. On rigole plus dans les entreprises et les administrations, c'est fini. Donc ça, les parents, ils sont très sensibles à ça. Si, ici, visiblement, on rigole dans cette radio. Oui.
Parce qu'on n'est pas salariés.
Voilà, c'est ça.
Mais donc,
on est des Ubers de
oui,
donc,
de la radio.
Ils sont très sensibles à ça. Il y a 18 millions de salariés du privé, 5 millions dans le public. Donc forcément, dans toutes les familles, il y a des gens qui sont dans le privé. Voilà. Et donc, ils sont tous concernés. Mais ils sont bien plus que concernés aussi. Parce que toute une partie la plus importante du Code du travail, toute la partie hygiène-sécurité, est applicable exactement de la même façon aux fonctionnaires qu'aux salariés du privé. Ensuite, ils sont concernés évidemment parce que l'inversion de la hiérarchie des normes qu'on voit maintenant qui se profile de façon systématique dans le privé, c'est déjà à l'œuvre dans le public depuis longtemps. Les présidents d'université, c'est des chefs d'entreprise. Les proviseurs, c'est devenu des chefs d'entreprise. Les principaux, c'est devenu des chefs d'entreprise. Et ils fixent la plupart des règles au niveau local, au détriment des règles nationales. Voilà, donc, bon, je pourrais aussi parler des entretiens d'évaluation, qui fait qu'on mesure désormais la qualification, même pas les qualifications, on mesure la personne, ce qu'elle vaut. Que ce soit dans le privé et que ce soit dans le public.
Est-ce que
c'est un facteur non seulement de compétition, mais de démoralisation, la pire qui soit.
Creuser le fossé entre les fonctionnaires et les travailleurs du privé ne servira pas ensuite à dénoncer les fonctionnaires comme des nababs, au final.
Non, c'est pas leur genre.
C'est déjà le cas, mais ça sera...
Ah, ça serait, tu fais un faux procès quand même au patronat.
Oui, non, moi, je trouve
ah,
que là...
Moi,
ils sont jamais allés sur ce terrain-là.
Mais alors, donc, du coup, ça veut dire que pour les jeunes... Pour les fonctionnaires et pour les salariés en général, eux, ce qu'il faut qu'ils disent, c'est qu'ils valent mieux que ça. Alors, c'est un peu ce qu'on peut entendre dans les manifestations. On veut mieux que ça.
La réforme du code du travail,
on veut mieux ça.
C'est pas qu'il y ait deux ou trois failles,
on veut mieux que ça.
Se résigner sans livrer bataille, qu'ils disent que l'on est pas taille, que les gens acceptent qu'on les assaille,
on vaut mieux que ça.
Qu'on laisse gouverner le patronat,
on vaut mieux que ça.
Qu'on cesse de gouverner par vos lois,
on vaut mieux que ça.
Quelques irréductibles gaulois face à l'envahisseur bourgeois qui voudrait piétiner nos droits,
on vaut mieux que ça.
La loi et le connerie,
on vaut mieux.
Et toutes ces conneries,
on vaut mieux.
Marre de ces moqueries en haut lieu, nous,
on vaut mieux que ça.
Que toute leur tromperie,
on vaut mieux.
Ça paye pas le bon prix,
on vaut mieux.
On a bien compris qu'on vaut mieux, ouais,
on vaut mieux que ça.
La réduction des temps de repos, les salaires peuvent faire de gros bons en arrière quand le haut de la pyramide le refaut. D'ajouter le fractionnement des 11 heures de la journée,
on vaut mieux.
Repos et euros à journée, non,
on vaut mieux que ça.
Les heures supplémentaires peuvent être 5 fois moins majorées. Les apprentis mineurs peuvent trimer 10 heures par jour. Les
heures
qu'elle a 24 heures, la semaine à 35 heures. Et d'autres acquittent à cœur que cette loi vise à chourer. C'est au service des exploiteurs, des groupes les plus dévastateurs, à qui cette loi fait des faveurs, que l'État a couré. Le plafonnement des indemnités, on peut pas se gourer. C'est pas pour aider le salarié, car
on vaut mieux que ça.
Les plans de sauvegarde de l'emploi consistent à virer les salariés sans quoi la barque est censée chavirer. Pour prétendu motif économique au lieu de ça, là qu'ils pourront se faire sans raison, mais
on vaut mieux que ça.
Passer de 10 à 12 heures de travail par jour,
on vaut mieux.
L'extension du dispositif forfait jour,
on vaut mieux.
Bosser gratos pour leurs beaux yeux par amour,
on vaut mieux.
Une patron jacques,
on vaut mieux,
ouais.
On vaut mieux que ça.
Et puis c'est vrai qu'aller s'épuiser,
on vaut mieux que ça.
S'enliser dans l'entreprise et se mépriser,
on vaut mieux que ça.
C'est chiner,
on vaut mieux.
ça.
Tous ruinés,
ça.
Déprimés pour déprimer puis déprimés,
on veut mieux que ça.
S'abîmer pour pas un rond pour des patrons,
on veut mieux que ça.
Sous les recommandations d'Emmanuel Macron,
il vaut mieux pas.
Chez Fayon,
on veut mieux que ça.
Et la pente c'est sale quand on t'en fait d'affront,
on veut mieux que ça.
Cet affront,
on veut mieux que ça.
On vaut mieux que se tuer au boulot, que se maintenir la tête sous l'eau, que s'anesthésier le fiboulot. Pour l'heure,
on veut mieux que ça.
On veut mieux que bosser au McDo, que mettre en rayon des packs d'eau. On est loin de nos rêves d'ado.
C'est vrai qu'on veut mieux que ça.
Perdre sa vie à la gagner, passer son temps à se manier. On est tous dans le même panier.
Et on veut mieux que ça.
D'autres pouvoirs pourront pallier tant ils vont voir qu'on est pagné si on cesse les accompagner.
Car on veut mieux que ça.
Grève générale, ad vitam aeternam. Vas-y, paré, réclame, ta petite paré, c'est le drame. Pour la bourgeoisie, car Ricard qui fabriquait sa cam, qui a trimé pour ses produits et sa gamme. Sans salariat,
aïe aïe aïe,
ça va pas, ah bah ça tombe bien. Combien vaut-on à ce stade-là? On vaut mieux que leur dire qu'on vaut mieux que ça. Ils ont là appris qu'on se moque de savoir combien on vaut, car on n'a pas de prix. Pas de prix.
On vaut mieux que ça. On vaut mieux que ça. On veut mieux que ça. On veut mieux que ça.
On arrive à la fin de cette émission et je me rends compte qu'on n'a pas parlé d'une mesure phare qui est souvent mise en avant sur cette loi, c'est le compte personnel d'activité. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots ?
Ça a tendance à me faire rire, le compte personnel d'activité, pour m'y être beaucoup intéressé, depuis qu'il est dans le projet El Khomri. Mais c'est une suite de quelque chose qui a déjà été entamé avec le compte personnel de formation. Mais ce qui me fait rire, bon, c'est d'entendre des dirigeants de la CFDT, de la CFTC, expliquer qu'ils attendent ça depuis 20 ans, qu'ils demandent ça, enfin, ils ont ça, et qu'ils étaient prêts d'ailleurs à accepter des mesures qui n'étaient pas terribles dans la loi travail, dans la mesure quand même, c'est cette chose-là magnifique, ce compte personnel d'activité, c'est quoi le compte personnel d'activité? C'est un immense fichier. C'est un traitement automatisé de données personnelles. Alors c'est un fichier qui renferme d'autres fichiers. Alors dans la loi El Khomri, il était prévu au départ qu'il renfermerait le compte personnel de formation qui existe et qui est opérationnel depuis le 1er janvier 2016, qui renfermerait le compte de prévention de la pénibilité qui existe déjà et qui est lui donc pour l'instant centralisé dans la Caisse nationale d'assurance vieillesse, alors que le compte personnel de formation, lui, il est logé à la Caisse des dépôts et consignations. Déjà, ça devrait évoquer quelque chose. Et donc, Valls a dit, on est sympa, on va rajouter un compte, le compte engagement citoyen. Alors, quand on regarde le compte engagement citoyen, tel qu'il est prévu par la nouvelle loi Valls-Khomri, El Khomri, l'engagement citoyen, c'est engagez-vous dans l'armée, hein, notamment, c'est la réserve militaire.
Hein, les, pas djihadiste,
la chasse,
l'armée,
la chasse aux terroristes. Voilà, donc ça fera l'objet d'un compte. Alors, il y a d'autres, il y a le service civique, le service communal, il y a le service sanitaire, enfin, toutes choses qui ne seront pas payées par les employeurs, mais par l'État et par les communes. Hein. Donc les patrons, ils ne vont rien payer là-dedans. Donc compte engagement citoyen, mais ce qu'il est prévu à terme, c'est d'y mettre aussi le compte épargne-temps, le compte assurance maladie, le compte retraite, le compte mutuel, le compte épargne salariale, le compte congé, et j'en passe peut-être. C'est-à-dire l'ensemble de l'activité. Alors ce qu'il faut dire, c'est que dans ce compte personnel d'activité vont rentrer non seulement les salariés, les chômeurs, mais ensuite les indépendants et les fonctionnaires, voilà, qui sont bien concernés. Et dans ces immenses fichiers de fichiers, il faut savoir, pour se concentrer sur ce qui existe, le compte personnel de formation, qu'en fait c'est un compte donc où rentrent 83 champs de données personnelles qui retracent l'ensemble de l'activité de tous les actifs qui vont y rentrer. Et donc le numéro de sécurité sociale qui permettra d'interconnecter tous les fichiers, voilà, et puis tous les éléments de votre vie, du berceau au tombeau pour la formation, puisque le compte personnel de formation est prévu dans le décret qu'il institue pour aller jusqu'au décès, et même 3 ans après, en cas où il y a des ayants droit, et même en cas de contentieux, plus de 3 ans après.
Donc c'est mieux que la
compte ouvert à partir de 15 ans, puisque c'est à partir des possibilités d'apprentissage. Alors, si j'ai encore le temps, je peux juste une phrase.
Oh, une phrase, c'est possible, mais j'entends une... Oui, vas-y.
Une phrase veut dire que l'objectif de ce compte personnel d'activité, en fait, c'est de détruire la sécurité sociale et d'individualiser l'ensemble des garanties collectives qu'on a maintenant pour les passer un droit individuel acquis au fur et à mesure de l'activité.
T'as le fantasme de la bourgeoisie et du patronat, détruire la sécurité sociale. Donc on va terminer sur un fantasme, parce que j'entends la générique de fin de l'émission de Wakadi.
Je suis contente que ça soit à la fin que tu décides de partager tes fantasmes.
Mais oui, avec le patronat même.
Avec le patronat, on n'en doutait pas. On arrive à la fin de cette émission. Encore une fois, on n'a pas pu se dire tout ce qu'on avait à se dire, donc on va encore se dire qu'on fera une autre émission, si possible plus rapidement. Donc on va remercier Richard de nous avoir décrypté la loi travail et bien montré les enjeux de la mobilisation, sachant qu'une journée nationale est prévue le 31 mars et qu'il sera sûrement suivi d'autres, puisqu'il y a des préavis de grève.
Plein de journées vont se suivre.
Manu n'est pas convaincu, mais Manu a toujours été un pessimiste né. On va se dire au revoir et à bientôt.
À bientôt.
Allez.